Le texte que j'ai choisi de partager avec vous se trouve dans l'évangile, dans la lettre de Jean, la première lettre de Jean, au chapitre 3, un texte que vous connaissez par cœur. Et je vous invite quand même à ouvrir vos Bibles, si vous en avez une près de vous, parce qu'on va le regarder, ce texte, pendant ce message. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'ai lu pendant ces vacances un livre que certains d'entre vous ont lu qui s'appelle La formule de Dieu de José Rodríguez dos Santos. C'est un roman qui utilise en fait les découvertes scientifiques actuelles en mathématiques, physique quantique, astronomie, biologie, pour démontrer que Dieu existe, si on veut, pour se poser la question de Dieu, et que derrière la complexité de la création, il y aurait un créateur. Et donc cette histoire, c'est l'histoire d'un roman, hein, d'un cryptologue qui est engagé comme espion par la CIA pour découvrir dans un livre qui a été subtilisé par les Iraniens ce qu'on appelle la formule de Dieu qu'aurait découverte Albert Einstein et qui serait une formule qui permettrait d'élaborer, qui serait la clé de toutes les sciences. Et je voudrais juste vous lire un petit passage qui dit « La quête de Dieu est comme la quête de la vérité, des affirmations d'un système logique et du comportement déterministe des particules. » Bon, ça ne vous dit pas grand-chose. Peut-être que ça vous dit quelque chose, quand même. « Nous ne pourrons jamais obtenir une preuve finale de l'existence de Dieu dans le sens où nous ne pourrons jamais obtenir la preuve finale que les affirmations non démontrables d'un système logique sont vraies ou que des particules ont un comportement déterministe. Et pourtant, nous savons que les conséquences de ces affirmations sont vraies. Et nous savons que les particules se comportent sur un mode déterminé. » Et c'est ça qui est important, c'est pour ça que je vous lis ce petit passage. « Ce qui nous est refusé, c'est la preuve finale, mais pas les indices qu'il en est effectivement ainsi. » Et la formule de Dieu serait la preuve finale. Alors, je lis ce livre, et puis moi j'écris là, voilà, c'est l'essence, pourquoi on a été créé. Pourquoi, s'il y a un créateur, c'est ce qu'il pose comme question, il y a un sens, un but. Et moi, j'écris partout, Dieu est amour. Dieu est amour, le but, c'est l'amour. On l'a dit, je dirais, la messe est dite ce matin. Parce que tout a été dit, et c'est ça qui est merveilleux. Mais on va approfondir un petit peu. Et en lisant ce livre, j'arrive à la fin, et la fin, c'est un grand flop. Dieu est amour. Et l'humanité ne le voit pas. Le but de la création est au final la manifestation de l'amour de Dieu. Et on dit souvent que ce livre, là je parle de la Bible, c'est un testament d'amour. C'est pour nous dire, mais voilà comment je vous aime à ce point. Et on a célébré le repas du Seigneur et la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Mais voilà, comme le dit Jésus, qui reprenait une parole d'Ésaïe le prophète, « Ils regardent, mais ne voient point. Ils écoutent de leurs oreilles, mais n'entendent ni ne comprennent. » Et c'est pour cette raison que Jean invite dans ce texte que nous venons de lire, ces bien-aimés à la contemplation. Voyez, voyez, qu'est-ce qu'il y a à voir? Parce que voir, c'est la clé de notre vie de foi. Savoir regarder. Et toute l'histoire de l'humanité est celle d'une éducation du regard de l'homme. Et nous, on nous apprend à l'école, depuis tout petit, à regarder, à être curieux, à observer. Et d'ailleurs, maintenant, on observe la nature et on nous apprend à observer et à déduire de cette observation des choses. C'est la méthodologie scientifique. On observe et puis ensuite, on déduit. Et c'est un petit peu la même chose. Jean nous invite à regarder, à voir, mais il dit, mais voyez, regardez, regardez un petit peu. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, disaient les prophètes. Et ça, c'est le drame de l'humanité. Et que faut-il voir au juste? L'amour de Dieu pour l'humanité. Son dessein bienveillant, et Paul le dit, hein, son dessein bienveillant. Jean ne parle que de cela dans son évangile et dans cet épître, ce premier épître de Jean. Et c'est que ça. J'ai des petits cœurs, je mets des petits cœurs dès qu'il parle d'amour, mais il y en a plein. C'est truffé de cœurs. Surtout les deux premiers chapitres où il parle de notre lien les uns avec les autres. Hubert a dit dans sa prière l'amour du prochain. L'amour pour les frères et les sœurs. L'amour dans l'Église. Alors, il faut savoir regarder. Mais voilà, notre regard est corrompu. Savoir regarder, ouvrir les yeux, c'est découvrir en fait le vrai visage de l'amour de Dieu. Et à l'inverse, notre regard peut être faussé parce qu'il a été corrompu. Et je veux parler là de la fameuse histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est bien une affaire de regard, cette histoire dans le jardin d'Éden. Le texte est admirablement construit. Il commence par planter un décor, un jardin, avec une quantité d'arbres. Et le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on peut traduire l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Puis Dieu permet de manger des fruits de tous les arbres du jardin, y compris de l'arbre de vie d'ailleurs, et il est interdit de manger seulement du fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Et c'est alors que le serpent intervient dans l'histoire pour poser une question, apparemment une question innocente, de simple curiosité, une question qu'il pose à la femme. « Vraiment, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» Et vous l'avez peut-être remarqué dans votre vie, mais le fait de prêter l'oreille au serpent, au diable, à cette petite voix, tout à coup corrompt votre regard. Tout à coup, le fait d'écouter juste, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Le regard est corrompu. Et dans cette histoire, plus jamais la femme ne verra l'arbre de la même manière. Vraiment, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Désormais, cet arbre, c'est l'arbre litigieux. C'est l'arbre de l'interdit qu'elle voit au milieu du jardin. Et non plus l'arbre de la vie. Ce qui est le contraire de la vérité. Cet arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux, tout à coup, c'est l'objet de sa convoitise. Et cela a l'air anodin, mais en fait, l'auteur de la Genèse le fait exprès, évidemment. Elle dit ceci, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas. » Et elle ajoute de son propre chef, « Vous n'y toucherez pas. » Alors le serpent, pour séduire Ève, lui promet « Non, vous ne mourrez pas, sous-entendu, si vous mangez du fruit interdit. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Et le texte continue toujours sur la thématique du regard. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux. On va peut-être arrêter de nous. Précieux pour agir avec clairvoyance. En une seule phrase, bon, elle vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir. C'est la tentation. La femme prend un fruit, le donne à l'homme, et ils en mangent tous les deux, et alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent. Mais pour voir quoi ? Le texte nous dit pour voir qu'ils étaient nus. Alors, pour certains, ça fera flop. Hein, voir qu'ils étaient nus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, voir qu'ils étaient nus ? Ben, c'est voir qu'ils étaient, tout à coup, ils étaient bien avec Dieu, et puis tout à coup, ils se disent, je suis qu'une créature. Je ne suis qu'une simple créature. Je suis rien du tout. Je suis nu. Cette condition-là, elle ne me plaît plus. Je ne peux plus vivre dans cette condition-là. Je ne suis plus heureux dans cette condition-là. C'est leur pauvreté fondamentale, leur corruptibilité, le fait qu'ils soient des créatures et non des créateurs qui les embarrassent tout à coup, à cause de cela. Et c'est ça, le regard de l'homme qui est désormais corrompu. Ce livre, le roman, finit par dire que Dieu, c'est l'homme. Voilà. Ils adorent le créateur, ils adorent la créature au lieu du créateur, nous dit Paul aux Romains. Ils contemplent la nature et ils n'y voient pas la grandeur de Dieu, ils sont inexcusables. Oui, ils voient tout à coup, ils voient c'est grand, c'est magnifique, et qu'est-ce qu'ils voient ? La grandeur de l'homme. Oh, ça m'a fait du mal. J'en avais un dégoût, j'ai dit à Marlina, j'en avais un dégoût. Et pourquoi j'étais dégoûté ? Parce que ça faisait écho à quelque chose dans mon cœur, malgré tout. Jésus, Dieu fait homme, avait pleinement conscience de son corps humain, de tous ses sens pour comprendre le cœur des hommes quand il dit dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 6, 22 à 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres ? » On peut le faire pour les sens, l'ouïe aussi, hein, il dit, ils entendent, mais ils prêtent l'oreille, mais ils n'entendent, ils n'écoutent pas. Ils n'entendent rien, Jésus dit aussi. En réalité, les yeux n'ont pas que la fonction de recevoir la lumière, mais de produire une lumière pour le corps. La lampe du corps. Ce qui fait que quelque chose peut être beau ou laid, sain ou malsain, ce n'est pas l'objet lui-même qui est sain ou malsain, beau ou laid, mais c'est le regard qu'on peut avoir sur la chose ou sur la personne. Il y a une vieille conception moyenâgeuse qui disait que le regard était le reflet de l'âme. Et notre regard, non seulement éclaire notre corps, mais il en dit long aussi à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, sur ce qu'il y a dans notre cœur, sur ce qu'il y a dans notre âme. Il y a un célèbre écrivain français, André Gide, qui écrivait justement « Que l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée. » Et parlant des aliments impurs pour les Juifs, Jésus explique à ses disciples et aux pharisiens que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui en sort. Et la question donc n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on regarde, mais pourquoi on regarde ? Qu'est-ce qu'on cherche, au bout du compte ? Quand on contemple la nature, quand on regarde son prochain, quand on regarde une chose, il faut réapprendre à voir. Et pour apprendre à regarder le monde, notre humanité, il suffit de suivre l'exemple de Jésus. Et on pourrait passer du temps à regarder comment Jésus regarde. Comment, dans Marc 10, il regarde le jeune homme riche, ou dans Jean 8, la femme adultère, ou l'apôtre Pierre, après qu'il l'ait renié trois fois en Luc 22, ou les lépreux, ou les collecteurs d'impôts, ou les prostituées, ou les gens dits de mauvaise vie, sur les religieux et les bien-pensants. Quel regard à Jésus ! Non, Jésus ne regardait pas à l'apparence, et même les pharisiens s'en étaient aperçus. Non, tu ne regardes. Nous savons que tu es quelqu'un qui ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Mais le regard de Jésus, il transformait ceux qu'il croisait et qui acceptaient de se laisser toucher par ce regard. Ça, c'est le regard de Jésus-Christ. Ça, c'est le regard de l'humanité telle qu'elle a été faite par Dieu. C'est comme ça qu'il a voulu qu'on regarde. C'est pour ça qu'il a créé les cieux et la terre, pour qu'on les regarde et qu'on contemple sa gloire avec ces yeux-là. Le récit sur Adam et Ève a toujours été considéré comme donnant la clé du malheur de l'humanité. Ben, tout a commencé, le mal a commencé avec Adam et Ève. L'homme ne regarde plus qu'à travers sa condition précaire de créature corruptible, mortelle. Oh, je suis qu'un pauvre pécheur. Oh, moi, je suis rien. C'est déjà une étape, mais ça ne permet pas de voir suffisamment comme Jean nous invite à regarder. Voyez, c'est-à-dire sachez voir, apprenez à regarder. Et c'est bien ça le thème majeur de Jean. Dieu est amour. Est-ce que vous avez vu que Dieu est amour dans votre vie ? Parce que la vraie vie, c'est connaître l'amour de Dieu. Pour l'homme, c'est de ne jamais en douter de cet amour-là. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, dit Jésus en Jean 17, dans la prière sacerdotale, avant de s'offrir en sacrifice pour l'humanité. Alors, comment faire pour avoir ce regard-là ? Alors, je vous ai dit, en regardant l'exemple de Jésus-Christ, mais dans notre texte aujourd'hui, Jean nous dit la manière pour que cette réalité devienne réalité pour nous dans nos existences. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et Paul, dans la lettre aux Éphésiens, dit « Il nous a prédestinés à être pour lui des fils et des filles adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi l'a voulu sa bienveillance. » Éphésiens 1:5. Et c'est ce que Paul appelle le dessein bienveillant de Dieu pour l'humanité, qui consiste à réunir toute l'humanité en un seul, Jésus-Christ. Jésus est la tête dont nous sommes les membres. Et les membres ne peuvent pas se refuser les uns les autres. Il y a une unité, un amour pour une harmonie. Et c'est ce que Jean, dans les deux premiers chapitres de son épître, première épître, essaie d'expliquer. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Mais s'il y a l'amour, il y a la preuve que vous appartenez à Dieu et que vous êtes enfant de Dieu. Jean ne dit pas autre chose. Jésus est le Fils par excellence. Et nous qui sommes ses membres, ben nous sommes aussi enfants de Dieu. C'est logique. Et il continue. Et nous le sommes, comme pour dire, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous le sommes vraiment. Ça veut dire, nous le sommes, c'est maintenant. Et on est déjà ressuscité. C'est toujours l'histoire du déjà et pas encore. On est déjà ressuscité. Paul nous dit qu'on est déjà assis à la droite de Dieu. Comment on peut être assis à la droite de Dieu alors que je suis là ? Mais parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et dans son corps, nous sommes déjà assis à la droite de Dieu. C'est notre réalité spirituelle. On est déjà ressuscité parce que Christ est ressuscité. Et si nous sommes son corps, nous sommes déjà ressuscités. Et il continue, nous le sommes, et c'est déjà devenu une réalité par notre baptême qui nous a greffés sur Jésus-Christ et qui a fait de nous ses membres. Paul le dit en Galates, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. « Dès maintenant, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, et dans cet Esprit, et il nous apprend à traiter Dieu comme un Père. » Il y avait dans le parcours Alpha une étude sur le Saint-Esprit, c'était la première étude. Que fait le Saint-Esprit? Et dans les premières actions de l'Esprit-Saint, quand on reçoit l'Esprit-Saint, c'est de nous donner cet esprit d'adoption qui fait qu'on reconnaît le cœur de Dieu qui est un cœur de Père. C'est ce qu'on appelle, on appelait ça l'Esprit du Père. Que l'Esprit-Saint nous révèle que Dieu est notre Père. Et il n'y a que comme ça qu'on peut voir. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Il nous appelle ses enfants, et nous le sommes. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père », dit Paul en Galates. Et c'est là l'œuvre de l'esprit qui nous révèle l'amour du Père. Et ce sens connaître le Père chez Jean, c'est le reconnaître comme notre vrai Père, plein de tendresse, plein de miséricorde. Et l'Ancien Testament est plein de parler de Dieu comme une poule qui protège ses enfants, comme quand bien même, nous dit Ésaïe, quand bien même une mère oublierait le nom de son fils qu'elle allait, mais dis-moi, je ne vous oublierai pas parce que j'ai gravé votre nom dans la paume de ma main. En attendant, il y a ceux qui ont cru en Jésus-Christ et dont vous faites partie, et ceux qui encore s'y refusent. Parce que pour nous, ça apparaît lumineux. Bon, je ne vous rappelle que des choses ce matin à la plupart d'entre vous, à la majorité. Mais c'est totalement incompréhensible. Et pire, incroyable ou dérisoire, voire même scandaleux pour les non-croyants. Et c'est un thème habituel chez Jean. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Au sens de « ils ne l'ont pas reconnu ». Et là, il dit, voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Et au verset 1, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voilà pourquoi le monde ne peut pas reconnaître qui nous sommes. Qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que c'est que cet amour qui nous lie? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas découvert l'amour de Dieu. Alors à ceux qui ne connaissent pas encore, c'est-à-dire qui ne voient pas encore en lui le Père, il nous appartient à nous de le révéler. Et c'est notre mission. Le révéler par notre regard, de le révéler par nos actes. Quand les fils de Dieu paraîtra, nous serons transformés à son image, nous dit Jean. Transformés à son image. Et c'est en ayant cette assurance que Dieu nous appelle ses enfants, que nous pouvons l'appeler papa, que nous pourrons un jour le voir de nouveau. Et Jean dira, quiconque m'a vu, a vu le Père. C'est Jésus qui dit ça, bien sûr, hein. Et à travers l'écriture de Jean, quiconque m'a vu a vu le Père. Il s'agit pour nous de purifier notre regard. Et comment cela se fait-il? Purifier notre regard, ben c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous donne le regard de Jésus. Alors comment faire en pratique? Comment purifier son regard? Jean nous le dit. Quiconque a cette espérance se purifie. Comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Jean nous le dit versets 2 et 3, en ayant cette espérance en Jésus-Christ de notre salut, qu'un jour nous serons semblables à lui et qu'on pourra le voir tel qu'il est vraiment, Jésus, le contempler tout son amour. C'est cette espérance que nous avons dans le cœur qui fera son œuvre pour que nous changions de regard sur l'humanité, sur ceux qui nous entourent. J'ai une patiente qui est décédée il y a deux semaines, Antoinette, Et c'est une dame que je voyais tous les 15 jours et qui venait avec le café et des gâteaux. Je vous en ai déjà parlé. Et on prenait tous les 15 jours, pendant une heure, le goûter ensemble. Et c'était un bon moment pour moi. C'était devenu, au début, bon, un peu une contrainte, parce que ça s'imposait, là. Et puis, après, c'était devenu un moment agréable. Si je vous parle d'Antoinette, c'est parce qu'Antoinette, elle mesure un petit 1,45 m, pour plus de 100 kilos, avec une tumeur... Elle avait un méningiome, donc elle avait son œil qui sortait, hein, avec une bosse sur... et elle, comme elle avait eu un cancer du sein, bah, elle avait perdu ses cheveux, donc elle avait les cheveux tout clairsemés. Et puis elle s'est teintée une bande violette, une bande blonde, une bande violette, une bande blonde. Voilà Antoinette. Alors au début, quand on voit Antoinette, ben... Mais maintenant, quand je pense à Antoinette, c'est une belle femme. Je la voyais jolie. Parce que j'avais passé du temps avec elle. Elle avait passé du temps avec moi. Et mon regard a changé sur Antoinette. Et je me dis, c'est cette opération que Christ veut faire dans nos cœurs pour qu'on change notre regard sur l'humanité. C'est pas seulement sur ce qui nous entoure, mais aussi sur les choses qui nous entourent. Les choses qu'on veut avoir pour soi, plutôt que les donner pour les autres. Et c'est un travail que l'Esprit Saint veut faire dans nos cœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean nous dit, voyez. Je vous invite dans la prière et je vais juste reprendre une prière que je vous avais déjà lue une fois, qui est une prière de Michel Coy. Et on va fermer les yeux et puis vous mettrez le jeu pour vous-même, si vous le voulez bien. Maintenant, je vais clore, Seigneur, mes paupières, car mes yeux ont maintenant achevé leur service et mon regard et mon âme va rentrer. Après s'être promené quelque temps dans le jardin des hommes. Merci, Seigneur, pour mes yeux, fenêtres ouvertes sur le grand large. Merci pour le regard qui transporte mon âme, comme le rayon généreux conduit la lumière et la chaleur de ton soleil. Je te prie dans la nuit, afin que demain, lorsque j'ouvrirai mes yeux au matin clair, lorsque tout à l'heure, lorsque dans quelques minutes j'ouvrirai mes yeux, Seigneur, il soit prêt à te servir, et mon âme et son Dieu. Fais que mes yeux soient clairs, Seigneur, et que mon regard soit droit, qui donne fin de pureté. Fais qu'il ne soit jamais un regard déçu, désabusé, désespéré, mais qu'il sache admirer, s'extasier, contempler. Donne à mes yeux de savoir se fermer pour mieux te retrouver, mais que jamais ils ne se détournent du monde parce qu'ils en ont peur. Donne à mon regard d'être assez profond pour reconnaître ta présence dans le monde et fais que jamais mes yeux ne se ferment sur la misère des hommes. Que mon regard, Seigneur, soit net et ferme, qu'il sache s'attendrir et que mes yeux soient capables de pleurer. Fais que mon regard ne salisse pas celui qu'il touche, qu'il ne trouble pas, mais qu'il apaise, qu'il n'attriste pas, mais qu'il communique la joie, qu'il ne séduise pas pour retenir captif, mais qu'il invite et entraîne à se dépasser. Fais qu'il gêne le pécheur parce qu'il y reconnaît ta lumière, mais qu'il ne soit pas un reproche que pour encourager. Fais que mon regard bouleverse, parce que c'est une rencontre, la rencontre de Dieu. Qu'il soit l'appel, le coup de clairon qui mobilise tout le monde pour sur le pas de sa porte, non à cause de moi, Seigneur, mais parce que tu vas passer. Pour que mon regard soit tout cela, Seigneur, une fois de plus, maintenant je te donne mon âme, je te donne mon corps, je te donne mes yeux, afin qu'en regardant, Les hommes, mes frères et mes sœurs, ce soit toi qui les regarde, et de chez moi leur fasse un signe. Amen.